Radio.
Je suis née à Paris.
En Bretagne.
Nous habitions une ferme sur 25 hectares.
J'ai commencé très jeune à militer. J'étais convaincue que nous allions changer le monde.
Ça, c'est le monde que tu connais. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
Amis du soir, bonsoir. Je vous propose de rencontrer ce soir une femme qui a décidé très jeune de vivre sa vie comme une aventure et de donner un sens à son existence. L'histoire de Rachel Müller est avant tout l'histoire d'une fulgurante ascension. Celle d'une jeune américaine débarquée il y a 10 ans à Paris avec ses deux copines, Maria et Berke, qui décident de se lancer dans la fabrication de gâteaux faits maison. L'aventure a véritablement commencé il y a 6 ans dans l'appartement de Rachel avec un four et un batteur électrique. Aujourd'hui, cette Américaine et ses deux associés sont à la tête d'une entreprise de 60 salariés et fournissent 600 restaurants. Cerise sur le gâteau, Rachel a ouvert cet été un restaurant à Paris dans le Marais et propose des plats revisités de son pays natal.
Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter.
Voilà, nous sommes au restaurant Rachel's Pont aux Choux, Paris 3e.
Rachel, c'est vous?
Rachel, c'est moi, voilà. Et c'est notre premier restaurant de notre petit groupe. J'ai 2 associés. On a ouvert ici en mi-juillet. Ici, on essaie de proposer une cuisine régionale américaine, donc qui est inspirée par les différentes époques, les différentes régions, les différents... ingrédients, etc., qu'on trouve un peu partout aux États-Unis. Et au même temps, on voulait faire la même chose avec les décorations. Donc, on a des motifs de l'époque Art déco. Il y a des motifs un peu Gatsby. Il y a des côtés de Nord-Est, Nouvelle-Angleterre. Il y a un peu partout. Il y a des différentes régions avec notre petit jukebox 1953.
Et donc, le jukebox marche?
Le jukebox, il marche. On a trouvé dans une petite boutique dans le 9e arrondissement à Paris.
Et là, c'est comme dans les westerns, on entend...
Et voilà, c'est dans oui, justement l'entrée du porte de la saloon.
Ouais. Voilà, le saloon. Oui, le saloon.
Écoutez l'histoire de Rachel Müller, la reine du cheesecake. Une histoire réalisée et habillée par Simone de Poux, préparée par Corinne Valente, mixée par Philippe Duclos. Et merci à Monsieur Djoubaka pour la programmation musicale.
Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.
Rachel Müller, d'où venez-vous?
Moi, je viens aux États-Unis, plus précisément de Ohio, Columbus, qui est la capitale. Donc, c'est quand même une ville de 2,5 millions d'habitants.
Quand même, oui.
Enfin, relativement grand aux États-Unis. Ce n'est pas New York, mais justement, aux États-Unis, ce n'est pas New York, malgré parfois qu'est-ce qu'on peut penser ici en Europe. Je viens d'une famille de 5 enfants, avec une mère seule. Elle était seule et nous a élevés seuls. En même temps, elle a travaillé, bien évidemment, parce que sinon, ça ne va pas. Donc, j'ai appris d'un petit âge de m'occuper de moi-même, de me défendre pour... Enfin, j'étais petit, j'étais le plus petit des 5 en plus, donc...
La petite dernière.
Voilà. Donc, j'ai dû vraiment apprendre de me battre pour ce que je voulais. D'un petit âge, de m'occuper de moi-même, j'ai commencé à travailler d'un petit âge aussi.
Ah oui?
Oui, 16 ans. Enfin, je suis allée à l'école et après, j'ai fait mes devoirs et je me suis changée. Je suis allée au travail. Voilà.
Vous n'aviez pas envie de poursuivre vos études?
J'ai commencé, j'ai fait 1 an et demi de philosophie. Puis j'ai eu l'opportunité de partir en Europe, qui est rare pour une Américaine parce qu'on a besoin des visas, etc. Et je me suis rangée pour les avoir. Donc, je suis partie 20 ans en Autriche. J'étais en train de faire des études et justement, philosophie, pour moi, ce n'est pas que être au cours, lire des livres, mais vraiment d'avoir une vraie expérience de la vie. Parce que c'est bien de rester dans notre ville de naissance, mais justement, pour comprendre plus le monde, je trouve que c'est important de sortir de ce qu'on connaît déjà et d'explorer des choses nouvelles et découvrir les nouvelles choses, avoir des autres perspectives. Voilà.
Parallèlement à vos études, vous avez travaillé à côté.
Oui. Donc, même au lycée, j'ai travaillé. Et après, quand j'ai fait des études, j'ai travaillé, oui, effectivement.
Vous aimiez ça?
je ne connais pas autrement. c'est ça où j'ai appris. Enfin, notre famille, oui. C'est pas que... Enfin, c'était surtout pas une famille riche, plutôt le contraire. Donc, on était obligés. Enfin,
c'était une question de survie.
Oui, oui, je pense. Bah, dans un sens, on a appris, je pense, avec ma mère, on a appris vraiment d'un jeune âge l'importance d'une mentalité, enfin, une philosophie du travail, une importance du travail, si vous voulez. Pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, il faut travailler pour que rien n'est juste donné. On n'est pas là pour demander à quelqu'un d'autre pour mettre la nourriture sur une assiette. Non, si je veux quelque chose, je dois aller faire le nécessaire pour l'obtenir. Et on a appris ça depuis un petit âge, un jeune âge. Et peut-être c'est parfois exagéré, mais en même temps, ça m'a permis aujourd'hui de devenir qu'est-ce que je suis. Et je ne le regrette pas.
Rachel, donc vous avez travaillé, si j'ai bien compris, à partir de 16 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, déjà dans une pizzeria.
Oui, j'ai fait mon premier... vrai emploi, parce qu'avant ça, j'ai fait des petits boulots, des newspapers, enfin des journaux, porte-à-porte, etc. À partir de 14 ans, c'était ça qui était les petits boulots légaux à l'époque. Et après, à 16 ans, j'avais mon premier travail. J'ai fait une pizzeria qui était même une chaîne de pizza en Ohio. Et c'était une chaîne vraiment qui était concentrée sur la qualité. Ça m'a vraiment marqué à l'époque parce que, enfin, on a appris vraiment l'importance de la qualité.
La qualité,
la qualité des ingrédients, les matières premières et aussi du produit fini dans la restauration, c'est important pour moi. On a juste de mettre le client en avance et les produits en avance. Et même si le produit n'est pas fini, de ne pas donner. Par exemple, on a fait une pâte, ce n'était pas au niveau où il devrait être, qualité vraiment supérieure. Le patron, il a préféré de refuser des clients, mais 50 clients, juste que la prochaine pâte, il est prête. Qui est vraiment bon, que de donner quelque chose de bas qualité, parce qu'après, les 50 clients qui ont mangé ça, ils ne reviennent pas. J'ai trouvé intéressant une mentalité, au lieu de juste prendre chaque centime à droite à gauche possible, de nous concentrer, c'est mieux de, à chaque fois, donner quelque chose parfait.
Vous avez appris aussi à cette époque-là, très jeune, à manager une équipe.
Oui, justement, j'ai commencé à 16 ans, j'ai fabriqué les pizzas, enfin, à mi-temps après l'école. Et j'ai terminé l'école à 18 ans. Et après ça, j'ai resté encore un an et demi. Et je suis monté très vite. J'avais une équipe de 25 personnes en dessous de moi. Donc, oui, j'étais un des plus jeunes. Donc, c'était un challenge de manager les personnes plus âgées. C'était nouveau pour moi aussi.
Et des gens différents aussi.
Des gens différents, parce qu'aux États-Unis, bon, c'est comme à Paris, une ville multinationale. On a des personnes partout dans le monde, d'autres backgrounds, soit religion, soit sexe, soit... C'est intéressant parce qu'il faut quand même s'adapter à tout le monde pour que ça marche. C'est comme une petite communauté.
Ça demande beaucoup de psychologie.
Oui, un petit peu.
Et ensuite, alors, vous avez travaillé, je crois, dans une pâtisserie, salon de thé autrichien.
Oui, après mon dernière année aux États-Unis, j'ai travaillé dans une petite pâtisserie qui était juste à côté de moi. C'était vraiment intéressant parce que c'était une pâtisserie familiale avec des Autrichiens qui sont venus d'Autriche en Columbus parce qu'il y avait des familles déjà. Ils ont monté leur petite pâtisserie. Et c'est là où j'ai fait la pâtisserie pour la première fois et j'ai découvert une passion pour la pâtisserie.
Ah, ça a été un véritable déclic.
Oui, c'était une découverte parce qu'avant, je fais que vraiment beaucoup de cuisine. J'ai cuisiné à la maison, etc. Et là, c'était vraiment la première fois que j'ai fait la pâtisserie. Et c'était le même temps où j'ai rencontré une de mes meilleures amies, Birke, qui est justement autrichien. Il est venu avec... Et aujourd'hui, elle est à Paris aussi. On est associés avec Rachel.
Vous êtes trois.
Voilà, on est trois associés. Voilà.
Et donc, vous êtes partie en Autriche, mais pourquoi ?
Je voulais juste voir, découvrir autre chose. Moi aussi, j'ai lu beaucoup d'histoires. Hemingway, des écrivains américains qui sont partis en Europe et qui ont écrit de Paris et d'Europe. Et voilà. Et... ça a donné envie.
Mais l'Autriche, pourquoi l'Autriche?
Non, j'avais juste le... Oui. Autriche, c'était juste coïncidence aussi, grâce à Birke, la famille m'a aidé d'avoir un visa là-bas et je suis partie avec elle.
Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas alors?
Et en Autriche, justement, j'ai fait à Vienne pendant 3 ans, une école de cuisine et pâtisserie d'ailleurs, donc on a fait les deux. Et après, j'ai travaillé dans les hôtels, les restaurants, etc. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai un point de vue, un niveau professionnel et privé pour moi-même. Mm-hmm. C'était une expérience parce que ça m'a permis d'avoir une vue externe de ce que je savais déjà aux États-Unis. Enfin, n'importe où on habite, on a des journaux français, on a des journaux italiens, enfin, on lit un point de vue d'un pays. Tous les jours, on est entourné par les messages, un peu... Mm-hmm. C'est pas propagande, mais quand même. Et quand on sort de notre pays, on habite ailleurs, on peut parler avec des autres personnes, avec des autres perspectives, et ça nous permet d'enlargir nos compréhensions pour le monde, et pour former des différentes opinions basées sur les autres choses qu'on ne connaissait pas exister avant.
Et ce voyage en Autriche vous a conduit où exactement? En France directement?
Ça m'a conduit en France, oui. Après 6 ans d'Autriche, j'étais prête à partir. Je ne savais pas où je voulais aller. Je pensais soit retourner aux États-Unis, soit aller à Berlin. Je parle allemand, donc ça serait... relativement facile, oui, voilà. Mais avec le langage, au moins, je ne dois pas apprendre une autre langue. Ou bien aller à Paris, parce que Paris, c'est Paris, et c'est une ville géniale. 5,90 et 6. J'ai choisi Paris, et je suis venue ici.
Quelle année ?
2003. À l'époque, je n'ai pas parlé français. Donc, j'ai commencé à travailler dans des sociétés, j'ai fait un travail, c'était une société qui a travaillé avec des autres pays en Europe, et moi j'ai fait commercial, et j'ai pu utiliser l'allemand et l'anglais, voilà, et dans le bureau parler un peu français pour apprendre petit à petit.
Et vous avez fait des progrès.
Merci ouais. beaucoup. Professionnel, j'ai pu travailler avec mes langues déjà, c'était une bonne expérience. C'était là que j'ai rencontré mon deuxième associé, Maria.
Et vous vendiez quoi, alors?
En fait, c'était une société qui a racheté des métaux précieux. C'était intéressant, mais je n'étais pas convaincue par derrière. Enfin, nous, on a promis des choses. Derrière, ce n'était pas suivi au niveau de le patron. Il n'a pas toujours suivi qu'est-ce que j'ai promis, etc. Donc, je ne me suis sentie pas bien vis-à-vis des clients parce qu'on promet quelque chose. Et après, le client ne se sent pas bien parce qu'en retour, il n'a pas exactement ce que c'était convenu. Merci. Bref, donc là, j'ai quitté cet emploi après 3 ans. J'ai trouvé une autre société à Paris où on a travaillé au niveau européen. J'ai travaillé avec des sociétés suédoises, anglaises, allemandes, etc. Et nous, on a vendu des campagnes marketing pour les sociétés informatiques. Et encore une fois, j'étais très bien vendeuse.
Très vraiment... convaincante.
Oui, très convaincante, je pense. Enfin, j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est au niveau relationnel avec les clients. J'adore parler, rencontrer des différentes personnes. Ça, j'adore. Mais justement, encore une fois, moi, j'ai vendu quelque chose. La société est censée derrière de pouvoir exécuter qu'est-ce qu'on dit en vente. Et après, à chaque fois, ça ne donne pas les résultats aux clients. Donc, à chaque fois, il fallait chercher des nouveaux clients. Nouveaux clients, ils n'avaient pas des clients récurrents parce qu'ils n'ont pas content. Et moi, au bout d'un moment, j'avais marre de vendre du vent.
On vend du vent.
Aux États-Unis, une expression, on ne vend rien, en fait. Mais il n'y a pas de substance derrière, bref. Donc, à l'époque, justement, ça fait 6 ans, on a eu l'idée avec Maria et Birkett de créer une société de fabrication et distribution des pâtisseries artisanales pour les restaurants. Parce que moi, dans mon expérience dans la restauration, je savais que beaucoup de hôtels, les restaurants, ils sous-traitent les pâtisseries, soit ils sous-traitent en acheter du surgelé ou acheter ailleurs.
Des préparations,
Des préparations, mélange une poudre avec du lait, cuillère, et ça a un magnifique panna cotta qui goûte rien. Hein.
Mais de votre côté, comment c'est venu cette idée?
On était allé une fois dans un petit restaurant des bagels, une spécialité américaine. On a mangé un bagel et c'était honnêtement c'était très bon. Mais les pâtisseries qui était proposé avec, ça n'a pas collé avec les qualités du salé et les qualités sucrées, ça n'a rien à voir. Il y avait un grand décalage. À l'époque, on était vraiment focalisé sur les restaurants anglo-saxons, un peu américains. On a regardé et partout, c'était le même. À l'époque, personne ne faisait les cheesecakes eux-mêmes. Ce n'était même pas important. Ce n'est pas connu à Paris. Il n'y avait pas une valeur ajoutée sur les pâtisseries américaines. Le consommateur, s'il peut acheter à 1,50€ ou 2€, ils sont contents. Voilà. Donc nous, on a eu l'idée de proposer voilà, des pâtisseries maison, faites sur commande et livrées le lendemain avec les bons ingrédients, super bonne qualité. À l'époque, j'ai appelé une quinzaine de restaurateurs pour expliquer que voilà, on a une société, on fait ça, etc. On expliquait les concepts.
Donc des desserts maison, faits maison.
Faits maison, fabriqués sur commande et livrés le lendemain.
Comme ça, vous avez démarré, claque.
Oui, sur 15 appels, j'ai pris 12 rendez-vous. Et sur 12 rendez-vous, il y avait 8 ou 9 qui voulaient démarrer tout de suite. Donc, dans la folie, on est il faut créer une société. Et dans les prochains 3 jours, la société, il était créé. Et voilà, on s'est lancé.
Vous avez été persuasive.
Oui, oui, c'était assez, assez rapide, même un peu impulsif. Mais finalement, voilà, c'était une bonne décision.
Ah, des filles. C'est bien des filles. Elles sont dangereuses, les filles. Les yeux bleus, les cheveux blancs, la bouche rouge, les mains douces, c'est des filles. Les yeux noirs, les cheveux bruns, la bouche rose, les mains lisses. Les yeux verts, les cheveux roux, la bouche noire, les mains rouges, c'est des filles. Les yeux bleus, les cheveux blonds, la bouche rouge, les mains douces, elles sont dangereuses, les filles. Allez les filles, c'est bien les filles.
Sur France Inter, partir avec Marie-Pierre Planchon.
Hé hey les filles, les garçons ont plus de liberté que vous. Est-ce normal?
L'histoire de Rachel est extraordinaire. Cette jeune américaine s'est lancée il y a 6 ans avec ses 2 associés, Maria et Berke, dans la confection de gâteaux faits maison. Aujourd'hui, elles fournissent 600 restaurants et emploient plus de 60 personnes. On en reste baba.
Après avoir eu cette idée, après avoir fait cette prospection, Rachel, vous décidez donc de fabriquer, de livrer ces pâtisseries faits maison aux restaurateurs que vous avez prospectés. Vous aviez quoi comme matériel à l'époque?
Oui, à l'époque, justement, c'était ça le problème. Déjà, on n'avait pas une société. Bon, ça s'est rangé dans 3 jours. Mais on n'avait pas un laboratoire, on n'avait pas d'équipement normal qu'on devrait avoir. On avait notre petite batteur KitchenAid, comme j'imagine que vous avez à la maison.
Oui, le petit beurre.
Un petit saladier ou voilà. Une bowl, voilà.
Un four peut-être quand même.
Et un four. Et une petite frigo aussi.
Donc vous n'aviez que ça.
On avait, comme toutes les autres personnes, voilà, des équipements de du maison. Bon, ça a développé assez rapidement, la société.
Ah oui, donc vous avez commencé dans votre appartement.
Oui, dans l'appartement. On a, 3 mois après la création, on n'avait pas une four, mais 3 fours. Un dans mon salon, une dans la cuisine et un à l'entrée. On avait 2 frigos, donc un dans ma chambre et un dans la cuisine. Et voilà, ça a grandi comme ça. Donc, on est allé à Metro, on a cherché les œufs de 350 œufs. On monte au 4e étage.
À pied?
Oui, oui, oui.
Il n'y avait pas d'ascenseur,
malheureusement. Donc, on fait les courses, on fabrique, on reste toute la nuit parce qu'avec 2 petits fours, c'est un peu compliqué de faire un grand volume. Donc, on a resté toute la nuit et le matin, on a descendu tout par les mêmes 4 étages. Des escaliers, on a livré. Même à l'époque, les premières livraisons, j'ai fait dans le métro et dans le bus. Et c'est étonnant parce que c'était un peu comme le cirque pour les spectateurs dans le bus, parce que je suis là avec 7 gâteaux en train de balancer et essayer de garder un équilibre en même temps, parce qu'on ne m'a pas laissé assis non plus. J'étais début dans le bus et tout le monde me regarde un peu. Mais c'était rigolo. Donc après 2 semaines, on a pu acheter une voiture et...
On ne vous a jamais découragé au départ?
Non, non, c'était vraiment positif dès le départ. Bon, heureusement, j'avais Marie et Birke parce que je n'aurais jamais pu faire ça toute seule, ni le démarrage, ni le développement, ni rien. Donc, on était 3, on s'est lancé, on a tout donné.
Rachel Müller, lorsque vous démarrez cette aventure, donc il y a 6 ans, vous avez 30 ans. Qu'est-ce que ça fait de démarrer une telle aventure à cet âge-là? Qu'est-ce que vous ressentiez? Parce que quand même, faut y aller, faut avoir le goût du risque.
Oui. Non, non, carrément, parce qu'on a tout donné. On a arrêté le travail qui paye un vrai salaire. Là, on n'avait pas. Mm-hmm. Enfin, les premiers 2 ans, on ne s'est pas payé des salaires, donc c'était un peu compliqué au niveau finance personnelle et pour... la petite société, mais en même temps, c'était une aventure et c'était vraiment quelque chose que nous avons créé nous-mêmes sans aide ailleurs. Donc, on était vraiment fiers de
tout.
Notre bébé.
Ah,
oui. Bon, c'était compliqué parce qu'on était 3 femmes. Donc, même quand on a cherché notre premier local, souvent les gens ils nous prennent pas au sérieux, ils rappellent pas. Même on a visité ensemble avec un agent immobilier. Et ils ne reviennent pas vers nous, on dit on est intéressés. Enfin, eux, ils ne reviennent pas, ou même pour faire des travaux avec des devis. Les entrepreneurs, ils viennent, ils nous voient, ils ne le prennent pas sérieux, donc ils n'envoient même pas les devis pour les travaux. C'est un peu compliqué.
Oui, parce que cette vie dans cet appartement, vous disiez, hein, c'était rigolo, mais pas tenable.
Ah non, pas tenable. On a duré 6 mois à peu près. Et après, on a pris un petit local de 35 mètres carrés dans l'ancien arrondissement. On était toutes fières. On avait des clés, on avait notre premier local commercial. C'était magnifique. Voilà.
Et c'est incroyable, ça a démarré tout de suite. Oui, les hôtels, les restaurants, tout le monde commence à s'arracher vos cheesecakes.
Oui, tout au début, c'était des cheesecakes et des pâtisseries américaines. Et après, rapidement, même après 2 mois, je pense... On s'est dit, on est quand même à Paris, et avec Birke, qui a une vraie connaissance des pâtisseries françaises, on a quand même développé une gamme de pâtisseries internationales, avec des tartes, des fruits de saison, des fondants au chocolat, panna cotta, tiramisu. On est sorti de mode centré autour de US, mais quand même, vraiment, on a essayé de développer une gamme qui passe dans les bistrots tendance à Paris, voilà.
Au final, je crois, à peu près 600 restaurants, vous fournissez.
Oui. Oui, aujourd'hui. Donc,
c'est hallucinant.
C'est hallucinant. 6 ans plus tard, nous avons à peu près, dans notre laboratoire de production, on est à peu près 60%.
Vous doublez votre chiffre d'affaires tous les ans, pratiquement.
Tous les ans, oui. Cette année, on ne va pas faire parce que justement, je manque la place. Je n'ai pas la place de produire autant. Mm-hmm. Donc, justement, c'est pour ça aussi on cherche un nouveau local.
Quelle est la recette de ce succès?
Mais déjà, on avait un concept assez innovant, quasi inexistant. Je pense qu'il y a 2-3 autres sociétés qui proposent des choses similaires, mais pas vraiment à le niveau que nous, on le fait.
Vous êtes exigeant au niveau de la qualité, c'est
ça? Oui, déjà la qualité et le service. Donc, par exemple, nous n'avons pas pris une vacance pendant les premiers 3 ans, aucune de nous trois. On a travaillé 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que de ne pas laisser nos clients tomber, ça veut dire qu'ils peuvent avoir les produits frais tous les jours, à Noël, en août, la vacance de Pâques, voilà, les vacances de ski, nous, on était là parce qu'on a une ou deux clients quelque part ouverts qui nous prend les gâteaux. Et moi, je ne voulais jamais dire non, non, on ferme 2 semaines, va aller acheter ailleurs pendant 2 semaines. Ensuite, on revient et voilà, non, c'était vraiment un engagement de partenariat qu'on reste là, on ne laisse jamais tomber, voilà.
Et il faut dire que vous fournissez quand même le Meurice, des restaurants 3 étoiles.
Oui, oui,
c'est... Hein, vraiment, c'est... Voilà, et des petites librairies, une petite librairie gourmande,
oui,
aussi, hein, dans le 13e.
Oui, on a tout type de restaurants, des restaurations rapides, haut de gamme, food truck, des événementiels, du bistrot tendance, du restaurant petit semi-gastronomique, des grands hôtels qui travaillent avec nos pains, etc. Et aussi, c'est vraiment bien parce qu'on a juste une gamme de produits, donc je n'ai pas une gamme pour les restaurations rapides et une gamme pour les restaurations traditionnelles. On a une gamme, une recette pour chaque produit et on a la même qualité pour chaque produit. Donc, quand on va chez un bagel shop dans le 3e et achète le cheesecake, on peut avoir le même qu'on achète dans le 6e dans une restauration traditionnelle haut de gamme.
Et j'ai lu d'ailleurs dans l'article qui était paru dans Le Parisien de Christine Henry que même vos surplus, vous les donnez au Resto du Cœur.
Oui, on essaie. Enfin, ça brise le cœur quand le matin, parce que nous, on fabrique sur commande, mais parfois, soit un client y annule, soit on calcule pas comme il faut. Et le lendemain, il reste 100 de pain, par exemple. Et ça brise le cœur de jeter quand même ces 100 pains ou 50 pains ou 40. Enfin, quel importe le chiffre, de jeter dans la poubelle quand il y a des personnes qui peuvent bénéficier, qui peuvent profiter. Donc, on essaie de toujours ramener le Resto du Cœur dans Montreuil. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
Marie-Pierre Planchon sur France Inter.
Rachel Meller, vous avez ouvert ce lieu il y a 3 mois. On est en plein cœur du Haut-Marais. Pourquoi d'ailleurs ce coin de Paris? Qu'est-ce qui vous a tiré là? Et pourquoi vous avez eu envie d'ouvrir un restaurant de cuisine américaine? C'était encore une nouvelle aventure, voilà. Mais vous n'en aviez pas assez? Vous aviez envie d'être connue?
Non, ce n'est pas forcément pour être connue. Honnêtement, je ne suis pas... Je ne communique pas, on ne fait pas de communication, on n'a jamais fait, je n'ai pas Facebook pour le Rachel's Cakes, on n'a jamais eu. C'était toujours bouche dorée, juste le succès, c'était basé à la qualité de nos produits. Oui, c'était pas sur une marketing communication pour faire croire les gens que vous allez avoir le grandeur. Non, c'était vous goûtez, ça vous plaît. Enfin, c'est magnifique, on y va. J'aime beaucoup le 3e arrondissement. C'est le petit village, voilà, que je connais depuis 7 ans.
Alors, pourquoi vous aviez envie d'ouvrir un restaurant?
Moi, je voulais toujours ouvrir un restaurant parce que j'ai une grande passion pour, un, pour les cuisines et deux, pour les cuisines américaines. Je suis assez fier, peut-être un peu trop fier de la cuisine américaine. Et je suis quelqu'un qui, une de mes buts avec ce restaurant, c'est de montrer... En France et en Europe, ou à Paris, déjà qu'il y a une cuisine américaine, ce n'est pas des hamburgers.
Vous n'en faites pas d'ailleurs, il n'y en a pas sur la carte.
Ce n'est pas prévu de l'avoir. Et qu'il y a une vraie cuisine régionale basée sur les différentes cultures qu'on trouve aux États-Unis, parce que le sud des États-Unis, c'est complètement différent qu'au nord-ouest, qui est différent qu'en New England, qui est différent qu'en Texas, ou bien au Midwest. Donc, et justement, qu'est-ce que c'est à la mode maintenant à Paris? C'est les tendances new-yorkaises, tout ce qui est new-yorkais. Et moi, comme je vous ai dit, je viens d'Ohio, qui n'est surtout pas New York. comme la plupart des Américains, d'ailleurs, on ne vient pas de New York tous.
Keep thinking of Ohio.
Me too.
Et l'idée, c'est aussi de montrer qu'il y a une culture hors de New York qui existe et que je trouve... intéressant, voilà. Donc, voilà, c'était l'idée de montrer qu'il y a une cuisine américaine et de faire quelque chose de nouveau. Parce que même il y a 6 ans, je ne dis pas que c'était nous 100%, mais je pense qu'on peut prendre un petit peu de crédit pour la tendance de pâtisserie américaine à Paris maintenant. Enfin, où on va, on trouve quand même, dans la plupart des bistrots tendance à Paris, on trouve une cheesecake sur la carte. Il y a 5-6 ans qu'on a commencé, ce n'était surtout pas le cas. Également, avant qu'on achetait un hamburger, c'était vraiment de qualité médiocre. Le pain, très très rarement artisanal. Maintenant, depuis... enfin, peut-être c'est une coïncidence et je ne sais rien, mais depuis que nous, on a fait les buns pour les restaurants, les pains d'hamburger, c'est quand même dans les restaurants respectables, c'est presque une obligation d'avoir un pain artisanal et pas surgelé industriel. Sinon, les Yelpers, etc., les blogueurs, ils ne vont pas vous aimer. Voilà. Donc, à l'époque, voilà, on a montré... enfin, une de les buts de Rachel's Cakes à la création il y a 6 ans, c'était aussi de montrer qu'il y a une vraie couture de pâtisserie. On fait des bons. C'est pas que les gâteaux sucrés et gras et dégueulasses. Non. Et d'ailleurs, je n'ai jamais adapté mes recettes pour les Français, comme on pense que c'est nécessaire de faire. On n'a jamais fait. Garde les recettes vraiment traditionnelles et ça plaît. Ça plaît énormément d'ailleurs aux Français. Hein. C'est pas que des Américains qui mangent nos pâtisseries ou nos produits. C'est vraiment c'est des produits adaptables à tout le monde. On se lance sur la cuisine américaine, qui est une vraie cuisine américaine et c'est bon. Et on n'a pas besoin de mettre le French touch. On peut carrément aller et mettre le touch du sud ou le touch du Midwest et c'est trop bon aussi.
Donc Rachel, vous proposez des plats traditionnels américains.
Oui, parfois traditionnels. C'est comme les plats que j'ai mangés comme enfant. Parfois, bien évidemment, c'est revisité un peu. Mais c'est toujours inspiré soit avec des régions, soit des ingrédients voilà, des États-Unis.
Ah, ils viennent directement de là-bas?
Non, enfin, les plats qu'on crée. Il y a des ingrédients que j'achète. J'achète du riz sauvage de Minnesota. J'achète les grits. C'est, grosso modo, c'est des polenta. C'est une autre maïs, c'est une autre famille de maïs. mais c'est du maïs séché et travaillé comme la polenta, enfin c'est la même chose.
Et une viande spéciale aussi.
Et les viandes, on achète du Kansas, donc on achète du Black Angus de Creekstorm Farms en Kansas. Et après, tous les poissons, c'est du poisson de France, de Saint-Jean-le-Luz.
Vous dites d'une petite pêche. Hein?
Les petites pêches, les petits bateaux. Mmh. On travaille avec Tiroir d'Avenir qui nous fournit des magnifiques poissons.
Mmh. Des légumes bio.
Des légumes, soit bio, soit des petits producteurs, souvent de l'Île-de-France, mmh. Du saison.
Et vous fumez aussi, je crois, le saumon.
Le but, c'est vraiment de faire tout à A à Z. On achète que les matières premières brutes que nous, on transforme. Mm-hmm. Même du yaourt, on fait nous-mêmes. Le saumon fumé, la poitrine du porc fumé, du pain au levain, soit du pain au levain, soit du pain au maïs. Mais quand vous venez manger, tout ce qui est sur votre assiette, c'était fabriqué maison, sur place.
C'est quoi le poor boy, le pauvre garçon?
Le poor boy, oui, on met ça sur la carte, ça a beaucoup d'attention. C'est une sandwich typique qui vient de Nouvelle-Orléans, qui vient du poor boy, du pauvre garçon. Après, c'est avec des différents ingrédients. Ça peut être avec des huîtres ou avec des crevettes, des gambas. Mm-hmm. Il y a des différentes versions que, justement, nous changeons avec les saisons. En été, on a fait avec des tomates vertes frites. C'est notre spécialité du sud de US, fried green tomatoes.
Les beignets de tomates vertes.
Voilà, c'est ça, exactement.
Quel est votre plat préféré à vous?
Ouf. Ça dépend. Ça dépend de mon humeur. Parfois, j'aime les choses raffinées, mais j'aime aussi... Je pense que le plus que j'aime, c'est le comfort food. C'est le comfort food. C'est maison, oui. Mais... qui remplit pas que le ventre, mais qui remplit le cœur. C'est un peu de qu'est-ce qu'on a mangé comme enfance, on connaît, voilà.
C'est le côté philosophe en vous qui ressort. Là.
Voilà, c'est ça. Mais j'aime tout.
Comment vous faites, Rachel, pour mener de front toutes ces activités entre la fabrication des gâteaux, le restaurant, il y a 72 personnes en tout à peu près.
Oui.
Comment vous faites?
Je l'ai fait avec... avec l'aide de mes associés, voilà.
Oui.
Sinon je ne ferais pas. Pour l'instant, je suis au restaurant en plein temps. Oui. Et Maria et Birke, ils sont à Montreuil, au laboratoire.
Comment vous vivez ce succès?
Humblement. Enfin, pour moi, la vie continue et écoute, ce n'est pas fini. Il faut rester vigilant et dédié et attentif parce que, déjà avec... l'économie aujourd'hui, et qu'on ne sait jamais demain qu'est-ce que peut passer. Justement, c'est pour ça aussi qu'on essaie de créer des différentes gammes, d'avoir des différentes idées pour l'avenir, pour rester des leaders sur le marché, avoir des nouveaux produits, des idées qui n'existaient pas encore.
Quel regard votre famille a sur votre réussite?
Ils sont très fiers. Ma mère, je pense, elle est très fière. Je pense que ça a fait du bien. Parce que je pense que ce n'était pas facile pour elle non plus
de
laisser seule autant. Enfin, parce que justement, elle n'a pas le choix. Elle a dû aller travailler, c'est compréhensible. Mais je peux imaginer pour elle, c'était difficile à l'époque. Voilà, et c'est surtout pas facile d'élever 5 enfants tout seul. Donc, j'imagine, elle est soulagée dans ce sens que c'était plutôt c'était réussi.
Rachel, à quoi vous avez dû renoncer pour ce succès?
Oui, j'ai renoncé beaucoup à la vie privée. On a sacrifié beaucoup. Si vous me demandez, il y a 2 ans, qu'est-ce qui se passe dans le monde, honnêtement, je ne pouvais pas vous dire, même s'il y a une bombe quelque part, un avion se crache. Je n'ai pas eu le temps pour lire les nouvelles, pour rencontrer des amis. On était juste 100% au fond. Gâteau et pain, voilà, c'est à peu près le seul monde que j'ai connu pendant... c'était 4 ans et demi après la création. On a pris en vacances et 5 ans après que j'ai commencé à prendre des jours libres par semaine. Avant, on n'a pas pris. C'est maintenant de réintégrer dans la vie sociale.
Vous rêvez d'une famille?
Non, j'ai une famille.
C'est génial.
Mais justement, là, j'ai sacrifié aussi parce que j'ai un petit-fils aussi de 7 ans maintenant. Donc lui, il était là depuis 1 an. Et il a fait même des livraisons avec nous. Et j'ai même des clients. J'ai des clients qui lui ont vu grandir depuis 1 an maintenant. Donc quand on va manger chez eux, dans des bisous, ils se connaissent, voilà, c'est vraiment cool. Mais lui aussi, enfin, il était toujours avec nous, et il y a un autre garçon ici, de mon campagne aussi, quand on a élevé ensemble. Et,
Donc en même temps que vous avez créé Rachel's Cake, vous avez eu un enfant.
Oui, mais avant, oui, donc... Oui.
Bravo.
Donc lui, maintenant, il peut être fier. Bon, il mange tous les gâteaux qu'il veut. Mais...
Quand vous êtes fatiguée, Rachel, qu'est-ce que vous faites pour vous remettre en forme?
Je pense que je suis fatiguée le plus. C'est que le matin, quand je me réveille. Après, je prends une douche et voilà, on y va, on commence. Et on n'a pas le temps pour être fatiguée. Sinon, ça ne marche pas. Dans la restauration, c'est un peu comme ça.
Qu'est-ce que cette expérience a changé en vous? Depuis que vous avez créé Rachel's Cake?
Bien évidemment, j'ai gagné du confiance en moi-même, c'est normal. C'est tout. Mais je suis toujours la même Rachel qu'il y a 7 ans. Hein, donc,
Rachel Meller, quel est pour vous le sens de la vie?
Je le cherche toujours. C'est une très bonne question. Et justement, je pense justement des différentes expériences qu'on fait. Ça nous permet de mettre en pièce de la puzzle, encore une pièce, en pièce. Et peut-être ici 20 ans, j'ai assez de pièces dans le puzzle de mie pour avoir la vraie connaissance de l'essence de ma vie. Mais pour l'instant, je suis toujours à la recherche.
Merci infiniment, Rachel. Dites-moi, avant de se quitter, c'est quoi le secret d'un super cheesecake?
Pour moi, c'est...
La qualité du fromage?
Oui, non. Bien évidemment, on ne peut pas... faire quelque chose de bon quand on commence pas avec les bons ingrédients. Pour moi, c'est le cheesecake, c'est assez technique, soit dans la préparation, soit dans la cuisson. Et le nôtre, justement, nous, on est parti sur une recette qu'on a créée ensemble, de garder 4 bons ingrédients, pas plus. Hein. La base de notre cheesecake, c'est du Philadelphia, le cream cheese, des œufs, du sucre et de la vanille, et c'est tout. Et c'est plus dans le... la façon de mélanger les ingrédients. Et après, c'est dans la cuisson.
Donc, oui, puis vous n'allez pas nous révéler tout.
Je ne vais pas révéler tout, mais... Non, mais souvent, je trouve que c'est trop cuit, le cheesecake, ou trop sucré, ou pas assez sucré. Ou... Nous, on voulait garder vraiment quelque chose de simple, mais bon, voilà.
Vous avez déjà en tête un autre projet?
On a plusieurs projets. Oui, ça n'arrête pas. Moi, je suis Marie aussi. On est vraiment des personnes qui travaillent en mode projet, On ne peut pas juste dire, OK, voilà, maintenant, on est tranquille. Non? On a toujours des projets en tête. Je cherche une locale pour faire un autre projet. Je fais un auprès des particuliers et un autre projet auprès des professionnels aussi.
Bon, ben merci infiniment d'avoir partagé avec nous tous vos secrets, petits secrets, votre dynamisme en tout cas.
Merci.
Parce que chapeau. Hein.
Merci à vous.
Encore un grand merci à Rachel pour son accueil. Vous retrouverez toutes les infos sur notre site franceinter.fr, partir avec Marie-Pierre Planchon. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez podcaster, réécouter les anciennes émissions et les partager avec vos amis. Je vous donne rendez-vous dimanche soir prochain, 23h15, pour une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure. Je vous souhaite une très très belle semaine et comme le disent les Grecs, Kalinikta, que votre nuit soit douce et sucrée.